Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine, je vais être accompagné par Meeker Guerrier. En compagnie de Meeker, on va parler des matchs qui ont retenu notre attention lors de la dernière semaine d'activité du côté de la NFL. Il ne reste plus que 2 semaines déjà au calendrier régulier. Alors, la course aux éliminatoires se resserre. Il y a des équipes qui sont en perte de vitesse. Il y a des équipes qui jouent très bien afin de conclure la saison régulière. Alors, on va parler de tout ça avec Meeker. On va y aller également de nos réactions excessives. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux fera son passage afin d'y aller de ses conseils Fantasy Football, étant donné que cette semaine, c'est la semaine des matchs de championnat à travers les ligues de Fantasy Football. Alors, plus que jamais, eh bien, vous allez avoir besoin des conseils de Marc-André. Portez attention à ses recommandations. Alors, on va en parler tout ça avec Marc-André Chaloux. Mais tout d'abord, on va accueillir Meeker Guerrier, l'homme le plus occupé au niveau des communications dans le domaine de la télé et de la radio au Québec. Il est partout. Tu as ton podcast. C'est un podcast que tu as avec Le Devoir, hein?
Oui, exact. Radio, podcast, podcast Au Devoir.
Podcast, comment ça se passe, hein? Ça fait pas longtemps que vous avez commencé.
Ça se passe super bien. Oui. Ça se passe vraiment bien. Puis je réalise pas à quel point on en a fait beaucoup depuis le mois de septembre. Je pense qu'on est à 72 balados on a fait tous les jours. Puis j'ai une
déjà, équipe, mon Dieu.
Tout simplement extraordinaire. Ouais, c'est du lundi au vendredi. Moi, j'anime 4 jours semaine. Il y a Philippe Papineau qui fait une journée dans la semaine. Donc, avec une superbe équipe, honnêtement, là, c'est une très, très, très belle expérience.
Ouais, puis tu as eu la chance d'aller au Qatar pour la Coupe du monde de soccer, là. Rapidement, comment c'était cette expérience-là? Parce que une fois que tu arrives là-bas, tu es complètement dépaysé. Là, tu passes de la neige au sable, au désert.
Oui, ça a fait du bien. Je t'avoue, là, quand je suis revenu ici, il faisait un peu froid. Mais c'est ça, il y a une espèce d'ambivalence là-bas. T'sais, autant tu es dépaysé, autant tu n'es pas dépaysé parce que c'est les mêmes commerces que chez nous. J'ai dit plein de fois, j'ai trouvé un Tim Hortons là-bas. Là. Fait que ça te donne une idée à quel point ça ressemble à chez nous. Mais quand tu sortais du centre-ville, tu sortais un petit peu.
Pas allé au Tim Hortons au Qatar.
Ouais, mais attends, j'ai une bonne excuse, je me cherchais quelque chose de sucré et réconfortant.
Tu peux faire mieux, il y a toujours une meilleure option que Tim Hortons. C'est toujours une meilleure option que Tim Hortons. Je garantis un peu loin, ça... que tu trouves sur la planète.
Mais ça fait une bonne histoire à raconter, par exemple. Mais c'était vraiment le fun là, comme voyage, puis c'est ça, sortir du centre un peu, voir de quoi ça a l'air un peu, les pays du Golfe, c'était vraiment intéressant, puis avec toutes les controverses évidemment qu'il y a eu. Admettons que l'amateur de sport et société en moi a été très bien servi.
Bon, ben écoute, on va passer de football au football, football nord-américain, football américain, celui de la NFL. Écoute, là, on approche la fin de la saison, comme je le disais tout à l'heure, il reste juste 2 semaines déjà à la saison régulière, avant le début des éliminatoires. Avant de parler des matchs qui ont retenu notre attention, il y a un congédiement, il y a un deuxième entraîneur-chef qui a perdu son emploi. Plutôt cette année, les Panthers à Caroline avaient congédié leur entraîneur-chef Matt Rhule. Ben là, ça a été au tour des Broncos.
Après ma visite.
Oui, après ta visite à Denver, c'est ça. C'est vrai.
Ben, en fait, passage, au podcast,
tu avais parlé de ça, oui. À Charlotte, ouais, Matt Rhule.
C'est ça. Fait que là, malheureusement, je n'ai pas pu avoir les Broncos, mais mettons que ce n'est pas une surprise.
Non, ben c'est ça. Hein, écoute, les Turner Hackett, les Broncos ont tué 4 victoires et 11 défaites. Souviens-toi, dès le premier match de la saison, c'est un match du lundi soir à Seattle, il semblait complètement dépassé par les événements, puis ça ne s'est jamais replacé. Même là, tu avais des joueurs des Broncos qui se tiraillaient entre eux durant la rencontre sur les lignes de côté. Ouais. Randy Gregory a donné un coup à un joueur des Rams durant les poignées de main après la rencontre. Le Turner Hackett, ça n'allait pas bien sur le terrain, ça n'allait pas bien dans le vestiaire, il n'avait aucun contrôle. Clairement, il n'était pas assez compétent pour ce poste d'entraîneur-chef-là. Toi, qu'est-ce que t'as passé, justement, lorsque tu as appris la nouvelle de son congédiement?
Ben, c'est pas une surprise. Tu sais, c'est une surprise et pas une surprise, comme plusieurs l'ont dit. J'ai regardé le match de dimanche, Rams-Broncos, là, puis écoute, tu te demandais, est-ce que Russell Wilson, c'est encore un corps de la NFL? Puis il y a un bras encore incroyable en termes de puissance, mais tu regardes le choix de jeu, la façon dont cette offensive est construite, elle n'a pas l'air construite pour Russell Wilson. Puis ça, ben malheureusement, je suis obligé de dire que c'est un peu la faute de l'entraîneur. Puis la seule raison, en fait, que Nathaniel Hackett a été congédié, c'est parce que tu peux pas congédier Russell Wilson avec le contrat qu'on lui a donné, tout l'argent garanti, la pénalité qu'il y aurait si on décide de le libérer. Sur la masse salariale, là, on parle, je pense, pour cette année, c'est quelque chose comme 104 millions de pénalité. Écoute, ça n'a absolument aucun sens l'argent qui serait bloqué sous le plafond salarial. Donc, c'est normal en même temps qu'on le congédie parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu sens qu'il n'y a plus de contrôle, ben, tu es obligé de faire quelque chose, puis tu t'en as parlé. C'est pas seulement sur le terrain, c'est à l'extérieur du terrain. Quand les joueurs commencent à se manquer de respect l'un envers l'autre, un joueur de ligne pousse ton quart arrière, à un moment
Carrière
donné, tu te dis,
réserviste.
OK.
Mais en même temps, je
Oui,
veux
le
pas
quart
voir
arrière.
Risner, le joueur de ligne à l'attaque, parce que avoir le carrière réserviste qui joue pas puis qui vient te
Ouais.
critiquer, moi j'aurais réagi de la même sorte, de la même façon, mais ça c'est
Ouais.
autre chose.
Ouais, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, je dis pas qui a tort, qui a raison, je dis juste la situation. Tu vois qu'il y a une perte de
Ouais, non, je
contrôle.
comprends.
Et
Ouais.
que les joueurs connaissent pas leur rôle, que les joueurs ont pas de respect pour l'autorité, il n'y a pas d'ordre dans cette équipe-là. Tu es obligé de brasser les cartes puis de dire OK, ça suffit. Puis d'ailleurs, c'est pas le seul à qui avoir été congédié. C'est l'équipe d'entraîneurs qui n'arrivait plus à faire le travail. Puis là, tu regardes ça puis tu dis hey, dans un mois, ça aurait fait un an qu'il était embauché. Tu sais, même pas fait un an de calendrier, même pas fait
C'est
un an
grave,
de
ça.
saison régulière. C'est rare. Je pense que c'est quoi? C'est le quatrième seulement à qui ça arrive d'être congédié à sa première saison dans
Je
la
crois que
NFL?
c'était le cinquième. Là, on en a eu deux lors de deux saisons consécutives. L'année dernière, Urban
Ouais.
Meyer, je pense qu'il a été congédié après 11 matchs seulement. Il y avait eu Bobby
Oui, mais
Petrino
ouais.
en 2006
Mais attends.
environ, lui qui avait lâché. Ah, c'est
Urban Meyer,
scandale
c'est
après
pas tant sur le
scandale.
terrain, là. C'est
Ouais,
ça.
c'est
Fait
ça.
que, tu
Non,
sais, lui,
mais après, c'est de l'incompétence, tout simplement,
Ouais.
là. C'est ça. Après,
Exactement.
Urban Meyer
C'était une
avait de
erreur.
l'incompétence également, mais il y avait les
Aussi.
scandales. Mais écoute, hey, ils ont accordé 51 points à l'équipe C des Rams. C'est même plus rendu l'équipe B là, des
Ouais.
Rams. C'est l'équipe C. Aaron Donald est blessé, Cooper Kupp pas là, Stafford pas là. Baker Mayfield, ça fait juste 3 semaines qu'il était avec l'équipe. 51 points. Clairement, les joueurs des Broncos ont lancé la serviette. Ils sont prêts à passer à autre chose. Je pense qu'après cette défaite-là, on avait d'autres choix du côté des
C'est clair.
propriétaires des Broncos que de congédier Nathaniel Hackett. J'ai hâte de voir la suite des choses pour le DG, parce qu'on n'en parle pas, mais le DG, George Payton, c'est lui là, qui a donné le contrat, qui a complété la transaction, qui a envoyé les choix de
Ridicule.
repêchage à Seattle, qui a donné le contrat à Russell Wilson. Donc, c'est lui qui a embauché Nathaniel Hackett. Donc, moi, j'ai bien de voir s'il va rester en poste. Dans le
Trois
communiqué, les
prises.
Broncos ont dit, ouais, 3 prises. Ben, c'est ce que je pense, moi aussi, il devrait être retiré. Mais les propriétaires ont dit qu'ils allaient participer au processus d'embauche du nouvel entraîneur-chef. Donc, on ne va pas laisser le DG faire ça tout seul, encore une fois. Mais on voit que ça a donné, mais les Broncos sont vraiment mal pris pour les prochaines années, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, on va se tourner là, vers les équipes qui vont participer aux éliminatoires. Il y avait un match que tout le monde avait hâte de voir. Les Eagles qui étaient à Dallas pour y affronter les Cowboys. Dallas a gagné par la marque de 40 à 34. Ce qu'il faut dire, c'est que Philadelphie était privée des services de Jalen Hurts, qui est blessé à une épaule. Il semble que Hurts ne reviendra pas au jeu avant les éliminatoires. Gardner Minshew a fait des bonnes choses. 355 verges par la passe. Deux passes au toucher, il a été victime de deux interceptions. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce match-up et de la performance des Eagles? Sans Hurts, ça a tout pris puisque les Cowboys les battent. Moi, si je suis Philadelphie, ben, je demeure optimistique. Je demeure. Oh, c'est pas le bon mot, ça, que je viens de dire.
Optimiste.
Optimiste, ouais. J'ai comme dit ça en anglais, mais j'ai traduit moi en français. Ouais, optimiste. Je demeure optimiste si je
Écoute,
suis les
on
Eagles.
consomme tellement de médias en français, en anglais, puis dans toutes sortes de langues. Écoute, c'est normal des fois de se chercher. Écoute, moi, je regarde les Cowboys. Moi, c'est les Cowboys que je me dis encore les bons vieux Cowboys. Oui, on gagne. Oui, l'affiche a de l'allure. Tu regardes Dak Prescott avec ton nombre de verges par la passe. Je pense qu'ils ont eu presque autant de verges par la passe les deux carrières. Je pense que c'est genre 347
Ouais,
pour
347 Dak,
Prescott, 3
355
passes de
Minshew.
toucher. C'est ça. Donc, tu sais, ça a été un bon match. Mais de l'autre côté, tu te dis, une fiche de 11 et 4, pas convaincante pour les Cowboys, alors que les Eagles, c'est l'inverse. Tu sais, tu te dis, écoute, Gardner Minshew, puis toujours des belles histoires, ça, des carrières réservistes qui ont une séquence incroyable, puis là, finalement, deviennent deuxième carrière dans une autre équipe, mais ils ont une autre chance, une deuxième chance de se prouver. Je trouve qu'il a bien géré le match, honnêtement, pour un carrière qui, on pensait pas qu'il allait pouvoir continuer à nous éblouir. Il a quand même connu un match très, très, très intéressant. Puis dans ce match-là, ben, ça s'est passé par les airs. Il y a eu presque pas pas de toucher, mais de course au sol puis de verges par le sol. La différence, en fait, pour les Eagles, ce sont les points qu'on a accordés sur les revirements. C'est ça, je pense, c'est 20 points sur les revirements qu'on a accordés. C'est là où tout s'est joué pour les Eagles. Donc, si on est capable de corriger ça, je pense que les Eagles ont une équipe avec ou sans Hurts qui peut quand même aller loin. Sans Hurts, on n'ira jamais en finale de conférence ou au Super Bowl, mais on peut avoir des matchs intéressants puis on se maintient dans la course et ça, c'est le signe d'une bonne équipe pour moi.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça, il n'y a aucune équipe qui a essayé de compléter une transaction pour mettre la main sur Gardner Minshew. Parce que il y a plusieurs équipes, là, on les voit jouer avec leur carrière. Minshew est meilleur qu'eux. Je ne dis pas qu'il est en carrière du top 12, du top 15, mais quand même, sa carrière professionnelle, une carrière compétente, ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des équipes qui ont essayé de mettre la main sur lui. Mais tant mieux pour les Eagles, ça fait en sorte qu'ils ont possiblement le meilleur carrière réserviste de la NFL. Alors que du côté des Cowboys, Mickey, moi, la défense m'inquiète. Là, on s'est fait tailler en pièces par Minshew. Et cette défense-là, elle a accordé 500 verges la semaine précédente aux Jaguars de Jacksonville. C'est une unité défensive qui, en première moitié de saison, était dominante. Mais là, elle termine pas bien la saison. Donc, j'ai hâte de voir si elle va pouvoir se replacer, l'unité défensive des Cowboys de Dallas. Puis là, les Eagles ont regardé derrière eux. Et là, les Vikings du Minnesota s'en viennent. Les Vikings sont défaits les Giants par un marque de 27 à 24. C'est la 11e fois cette année que les Vikings gagnent un match par un écart d'une possession ou moins. Ils ont gagné grâce à un botté de pression de 61 verges de Greg Joseph en prolongation. Les Vikings sont chanceux. J'ai de la misère à me dire que c'est réellement une bonne équipe malgré leur fiche. Ils sont tellement chanceux. Toi, c'est quoi ton compte rendu des Vikings? Et de
Ben, tu
Kirk
connais le
Cousins, qui
dicton,
joue
hein?
très
Les
bien, soit
bonnes
dit en
équipes.
passant, hein?
Ben oui, mais les bonnes équipes font leur chance. Kirk Cousins n'a jamais été, pour moi, un quart dominant, même quand il jouait à Washington. C'est pas un quart qui est éblouissant. Depuis qu'il est arrivé avec les Vikings, il est devenu un vrai quart numéro un, puis un quart dans lequel tu peux avoir confiance dans la NFL. Puis ça a une valeur inestimable. Puis moi, je regarde ce match-là. Puis, tu sais, on l'a dit, c'est quoi? C'est un quatrième match? Combien de matchs par une possession? J'ai entendu
11.
11,
11.
c'est ça. Fait que tous ces matchs-là que tu gagnes, ça bâtit non seulement ta confiance, mais ça bâtit aussi ton état d'esprit dans le sens de on est capable comme équipe de gagner par une possession. Et en séries éliminatoires, ça se joue souvent sur une possession. Donc pour moi, c'est une équipe qui déjà commence à être rodée pour les séries éliminatoires. Quand je regarde également offensivement ce que Jefferson est capable de faire, Justin Jefferson, qui a battu d'ailleurs le record de Randy Moss pour le plus grand nombre de verges avec les Vikings, tu te dis, ben, cette équipe-là a une attaque qui est diversifiée, une attaque qui est redoutable, une défensive qui est pas extraordinaire, mais qui fait
C'est
le
ça qui
travail
m'inquiète,
aussi. Tu sais,
moi.
je regarde.
Ouais.
Ben oui, mais en même temps, tu te dis avec l'offensive qu'ils ont, ils vont toujours être capables de s'en sortir. Fait que,
Mais
je
la
pense
seule
pas qu'ils
chose,
vont
c'est
se
quand tu
rendre
arrives en
au Super Bowl, là.
éliminatoire, t'affrontes des meilleures équipes. Donc, si ta
Il y a
défense,
ça.
elle est moyenne, là, elle va être exposée. Donc, ce ne sera pas aussi facile de revenir de
Ouais.
l'arrière lors des éliminatoires.
Non,
Parce que
non,
c'est
c'est
les meilleures équipes, naturellement, qui y participent.
Ouais.
C'est pour ça que j'endosse pas les Vikings, c'est ce qu'on peut
Ouais,
dire.
mais s'ils sont capables de prendre les devants, puis tu parles de revenir, oui, c'est vrai, ce sera pas facile, c'est sûr que ce sera pas facile de revenir. Mais s'ils sont capables de marquer des points, prendre les devants dans un match, je pense qu'ils sont capables de gagner peut-être un match éliminatoire, peut-être deux. Mais non, je les vois pas au Super Bowl du tout, là. T'sais, je mettrais même pas 2 piastres là-dessus, là. Je pense pas que c'est une équipe assez solide pour ça, là.
Ouais, comme tu dis, il faut leur donner crédit pour le fait qu'ils ne se découragent jamais, sont en mesure de
Ouais.
revenir de l'arrière. Ça, c'est une preuve de caractère quand même. Puis ça pourra pas probablement leur servir lors des matchs éliminatoires, du moins s'ils se retrouvent dans la même situation, parce qu'ils font se dire, hey, on tire de l'arrière par deux possessions, mais on sait qu'on peut revenir de l'arrière. On l'a fait à plusieurs reprises au cours de la
Ça.
saison régulière. Puis du côté des Giants, Daniel Jones, 334 verges par la passe, aucune passe de toucher, est victime d'une interception. Mais j'en parlais avec Mathieu et Bruno en dehors des ondes lorsqu'on regardait les matchs samedi. Daniel Jones s'est amélioré cette année. Il s'est
Ouais.
amélioré. Il faut lui donner crédit. Il faut donner crédit à Brian Daboll, l'entraîneur-chef, qui lui avait aidé Josh Allen à s'améliorer. Si bien que moi, je crois que les Giants devraient ramener Daniel Jones l'année prochaine. On sait qu'il joue la dernière année de son contrat. Mais tu vois, quand tu regardes à travers la NFL, on pourrait se retrouver avec une carrière beaucoup plus pire que Daniel Jones. Qu'est-ce que tu penses des Giants et justement de Daniel Jones, de ses performances? Surtout que quand tu regardes leur groupe de receveurs, leur receveur numéro un, c'est pratiquement Darius
C'est
Slayton. On n'est pas bien
ordinaire.
nantis. Très,
C'est
très ordinaire.
ordinaire. Puis moi, pour moi, cette équipe-là, son offensive repose sur Saquon Barkley. Puis malgré tout, Daniel Jones a été la vedette ou le joueur le plus important dans ce match-là. Tu parles d'amélioration. L'important dans la NFL, c'est ça. C'est t'améliorer. Si tu stagnes, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Il n'y a personne chez les Giants qui a réussi à prendre la place de Daniel Jones. Puis, tu vois, Daniel Jones, on est dans la même classe qu'un Sam Arnold, par exemple. Tu dis d'Arnold plutôt. Tu dis, bon, est-ce qu'il s'améliore ou pas? Est-ce qu'il progresse? T'sais, tu regardes aussi avec, excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire là, mais il est rendu avec les Rams.
Ah, tu
Excuse-moi, il était avec les
Ah, Baker
Cleveland.
Mayfield.
Non, 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 il était avec les Baker Mayfield, exactement. Baker Mayfield, que tu dis, ben, qu'est-ce qu'il fait encore là? Il est ressuscité, il revient. Tu sais, des quarts arrière que tu dis au potentiel, tu dis, OK, ils vont réussir, puis là, ils stagnent très, très rapidement, puis là, ils se retrouvent rapidement deuxième, des fois troisième quart. On les met au ballottage, changent d'équipe, ils s'en vont à gauche, à droite. Dans le cas de Jones, tu dis, ben, ils progressent, on n'a aucune raison de s'en débarrasser puis de recommencer avec un nouveau corps arrière, à moins de pouvoir signer une super vedette, mais tu as un corps qui progresse. C'est ça que tu veux. Puis tu regardes la fiche des Giants cette saison-ci, on joue pour plus que 500, 8 victoires, 6 défaites. C'est pas mauvais pour une équipe en passant pour laquelle on n'avait pas beaucoup d'attentes en début de saison. Moi, je m'attendais à une
Ah,
saison
moi,
beaucoup
j'en
plus
avais
difficile
aucune,
des
moi.
Giants. Moi, je m'attendais à une fiche de genre 4, 5 victoires, puis des défaites par une possession ou deux. On est dans le match, je peux pas vraiment, mais aucun espoir de faire les séries éliminatoires. Là, on est dans la course. Tu es obligé de dire qu'il fait le travail, puis tu n'as aucune raison de le libérer pour les prochaines années. Mais non, un contrat de 5 ans, c'est peut-être trop, là.
Ouais, je vais dire qu'ils sont dans la course, puis ils n'ont pas fait des changements majeurs là, à la formation durant la saison morte, mis à part les choix au repêchage. Kayvon Thibodeaux en deuxième moitié de saison, l'ailier défensif
Ah
dans
mon
le choix de
Dieu, il est
première ronde.
incroyable. Ouais.
Ah, tu vois le potentiel qu'il a, là. Il peut devenir un grand
Ouais.
joueur s'il continue sur sa lancée, là. Il est vraiment tout un athlète. Mais mis à part ça, on n'a pas fait, on a signé quelques joueurs autonomes, mais aucun de premier plan. Ça, c'est vraiment le coaching. T'sais, Brian Daboll, Wink Martindale, le coordinateur de la défense. C'est à eux qu'il faut donner crédit. Puis pour ça, on parle d'amélioration de Daniel Jones. La même chose avec Trevor Lawrence. L'amélioration qu'il
Ah
a cette
oui.
année, comparativement à l'année dernière, parce que là, il est bien entouré avec Doug Peterson, comparativement au clown d'Urban Meyer. T'sais, très souvent, on juge les joueurs lorsqu'ils deviennent des flops au repêchage. Mais est-ce qu'ils ont été bien entourés, pas juste sur le terrain au niveau du talent, mais au niveau du
Ouais.
coaching, surtout à la position carrière? Il n'y a pas un
C'est
joueur qui peut se
difficile.
développer s'il n'a pas du bon coaching. Peu importe le sport, tu le sais. Et là, on le voit avec Daniel Jones. Je me souviens du premier match de la saison régulière. J'avais vu Brian Daboll qui criait sur Daniel Jones, après Daniel Jones sur les lignes de côté, lorsqu'il avait été il avait été victime de revirement, je me disais, c'est ça qu'il a besoin, on ne peut plus lui donner des passes droits. T'sais? Puis clairement, il répond à ça. En tout cas, moi, je suis surpris de l'amélioration de Daniel Jones, la saison des Giants, je ne m'attendais vraiment pas à ça, puis surtout qu'on continue de bien jouer. On a eu un passage à vide à un certain moment donné.
Ouais.
Là, bon, on a recommencé à bien jouer, et pour l'instant, ces éliminatoires commençaient aujourd'hui, ils y participeraient. J'ai hâte de voir s'ils seront en mesure justement de se qualifier pour les matchs d'après-saison. On reste du côté de la NFC, les Buccaneers de Tampa Bay, dans un match qui était, il n'y a pas d'autre façon de dire, plat, mais ennuyant. Ça a tout pris pour battre les Cardinals d'Arizona, menés par Trace McSorley, carrière numéro 3 des Cardinals. Finalement, les Bucs ont
recrue.
gagné en prolongation, 19 à 16. Mika, je te dis, je regardais le match avec Bruno, on n'en revenait pas à quel point les Buccaneers, on dirait, je me répète à chaque semaine, l'attaque est complètement brisée du côté de Tampa Bay. Puis on a d'autres blessés du côté de la ligne à l'attaque. On est rendu avec notre troisième bloqueur à gauche. OK, notre troisième bloqueur à gauche. Tom Brady, tu vois qu'il ne veut pas se faire frapper. Écoute, moi, je te pose la question. Est-ce que tu aimerais voir Brady de retour la saison prochaine?
Non, non, c'est réglé. Puis à qui j'en parlais dernièrement, c'est drôle parce que je regardais ce match-là avec ma meilleure amie. Puis elle s'est levée en levant les bras au ciel. La pire équipe de la NFL, les Cardinals sont même pas capables de les battre. C'est Tom Brady. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit, ben, moi je le dis depuis à peu près 3-4 semaines, c'est la saison de trop pour Tom Brady. On se demande à chaque début d'année, là, depuis 3 ans quasiment, est-ce que c'est la saison de trop? Puis tu sais, Mathieu Proulx disait, je n'ai jamais parié contre Tom Brady. Ben moi, j'ai commencé à parier contre lui cette année-là. Tu regardes cette division-là, c'est la pire division de la NFL, la NFC Sud. Écoute, 7 victoires, 8 défaites, tu joues pour en bas de 500, puis tu vas te qualifier pour les séries éliminatoires, ça n'a absolument aucun sens. Puis toutes les équipes, ou presque juste les Falcons qui sont plus dans la course, ça n'a aucun sens. Puis tu dis, Tom Brady a plus ce feu dans les yeux. Tu sais, McSorley, c'est une recrue, tu disais, le deuxième, troisième quart des Cards. Premier match, dans la NFL comme partant. Tom Brady, je pense que c'est 341 ou 331, quelque chose comme ça. Je voyais la statistique pendant le match. Puis surtout, en plus, ils ont gagné les Buccaneers à cause du revirement. T'sais, il restait 4 minutes. McSorley tente une remise qui touche
Ah, ils
l'épaule.
ont été
Je
chanceux,
pense que
là.
c'est Ingram, je pense, qui était là. Écoute, c'est n'importe quoi. C'est un jeu vraiment de chance, puis peut-être un manque d'expérience, puis une certaine nervosité de la part de McSorley, parce que tu fais une remise ordinaire, là, juste une remise là, un peu ratée, puis ce jeu-là te donne potentiellement un premier jeu, alors que là, tu rates complètement, revirement, puis Tom Brady, ben, il n'y a pas besoin de 12 chances pour replacer les choses, mais tellement pas convaincant. C'est sûr qu'ils sont éliminés au premier tour cette année, même
Une
avec la
partie
magie de
posée
Tom
ma
Brady.
foi. Oui.
Puis je trouve ça, ouais, puis je trouve ça dommage parce qu'ils sont premiers dans la division, c'est la seule raison, tu sais. Mais je trouve ça dommage pour Tom Brady de terminer sa carrière comme ça. S'il était parti l'an dernier, il avait pris sa retraite. Pourquoi t'es revenu, Tom? Et en plus de ça te coûte un divorce. Je trouve ça vraiment dommage.
Ouais, plus souvent qu'autrement, ça se termine pas bien les carrières dans la NFL, peu importe la position, mais là, si on parle juste de la position de carrière, souviens-toi, Drew Brees, à la fin, il n'y avait plus de bras. Il était
Ouais.
fini.
Ouais.
Peyton Manning,
Peyton
avec sa
Manning.
blessure au cou, lui aussi, il n'avait plus de bras, était capable de lancer le ballon plus divers. Son frère Eli, ça a mal fini, il était rendu au bout du rouleau. Matt
Roethlisberger.
Ryan, cette année, Matt Ryan, cette année, pauvre Matt
Ouais.
Ryan, qui a été un grand joueur, un excellent joueur. Là, c'est
Ouais.
Nick Foles qui était carrière partant lundi soir. Ryan Clouban, Roethlisberger, comme tu dis, les 2 dernières saisons, ça nous faisait mal aux yeux de le voir jouer. Donc, c'est ça la norme. Puis l'autre chose, c'est que les Buccaneers ont zéro attaque au sol. La défense, qui est pourtant talentueuse, joue pas bien. Puis Tom Brady, Meeker, c'est le carrière qui, à 45 ans, a tenté le plus de passes dans la NFL cette année. Écoute, il tente, je
Normal.
pense, en moyenne 45, 40, 45 passes par match. Et si on avait une bonne attaque au sol, je pense que Brady, il serait meilleur. Quand tu regardes ses statistiques, sont pas mauvaises. Mais quand tu regardes les matchs, il rate plusieurs passes. Mais si on avait une excellente attaque au sol, puis tu demandais à Brady de convertir les troisièmes essais, tu sais, de gérer le match, je pense qu'il serait capable de le faire. Mais là, c'est trop. De lui demander de passer le ballon 45 fois par match à l'âge de 45 ans, c'est juste beaucoup trop. Puis bon, justement, ils sont dans une course avec les Panthers de la Caroline pour terminer au premier rang de la section sud de la nationale et par conséquent de participer aux éliminatoires. Les Panthers qui ont éclaté les Lions de Détroit. Écoute, on a gagné 320 verges au sol. On a couru une quarantaine de fois avec le ballon. C'est ce qu'on fait là depuis que Steve Wilkes est l'entraîneur-chef. On ne se casse pas la tête. On court avec le ballon. Arrêtez-nous si vous êtes capable. La seule équipe qui a complètement neutralisé l'attaque au sol des Panthers, ça a été les Steelers de Pittsburgh lors de la semaine précédente. Mais les Lions étaient pas prêts à affronter ce genre d'attaque-là. Puis moi, personnellement, tu sais, quand on vient de parler des Buccaneers, moi, je préférais voir les Panthers en éliminatoire plutôt que les Bucs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, mais moi, je souhaite voir les Panthers y participer.
Ben, tu sais, moi, j'aime bien, tu sais, j'aime Tom Brady quand même, j'aime ses histoires de la NFL, puis je me dis, est-ce que Tom Brady, à ce qui est vraisemblablement sa dernière saison, peut participer aux éliminatoires, nous sortir un lapin de son chapeau, gagner en première ronde, puis faire une belle histoire? Ça pourrait être le fun. Mais d'un autre côté, tu te dis, Tom Brady va arriver, va faire de la magie, puis il va gâcher la belle histoire d'une autre bonne équipe contre laquelle ils vont jouer au premier tour. Moi, j'aime bien les Panthers parce que, encore dans ces histoires de progression, Sam Darnold progresse, progresse, progresse. Le congédiement
Darnold a
en
juste
début de saison,
25
on
ans en passant,
pensait.
hein? Sam Darnold a
Ouais,
juste
c'est ça.
25 ans. Hein?
Il n'y a pas longtemps qu'il est dans la NFL. C'est quoi? C'est sa 4e saison, je pense.
Au
Sam
moins, au moins
Darnold.
quatrième, cinquième. C'est qu'il est arrivé très
C'est
jeune, hein?
ça.
Il est arrivé à 20,
C'est
21 ans.
ça. Puis, tu sais, un échange déjà, une transaction, il se retrouve avec les Panthers, puis tu sens comme ça qu'il progresse. Puis, c'est niaiseux parce que tantôt, j'ai eu un blanc de mémoire quand je voulais te parler de Baker Mayfield, mais j'ai mis dans mes notes, on dirait qu'ils sont ressuscités depuis que Baker Mayfield est parti. Je sais pas si c'est l'atmosphère autour de cette équipe-là, puis l'attention qu'on met maintenant à la
On
bonne
peut pas
place,
blâmer Baker pour
plutôt.
tout, là. On peut
Non,
pas
non, je le
blâmer
blâme
Baker pour tout,
pas.
là.
Je ne le blâme pas parce que de l'autre côté, Baker Mayfield, on dirait qu'il a retrouvé un peu le plaisir de jouer avec les Rams. C'est une équipe qui a une saison de misère. Mais c'est une séparation qui se passe bien. Pour moi, c'est un peu ça. Je ne dis pas que c'est Baker Mayfield qui fait que tout allait mal. Mais tu sais, quand ils sont allés le chercher, Baker Mayfield, on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils font, les Panthers? Pourquoi ils font ça? Et là, tu vois, C'est Sam Darnold, le corps numéro un. C'est lui qui va mener l'équipe. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a personne en arrière de lui pour lui chauffer trop le derrière. Puis ça marche. Fait que pourquoi pas les voir en séries éliminatoires? Je pense que ça pourrait être intéressant. Tu regardes son nombre de verges, 250 verges, c'est pas la mer à boire, mais tu sais, 15 en 22 en termes de passes. Tu réussis une passe de toucher, ton attaque au sol est dévastatrice dans ce match-là contre les Lions. Donc, pourquoi pas une équipe comme ça en séries éliminatoires? Ça serait le fun aussi pour Sam Darnold. Fait que, tu sais, d'un autre côté, Tom, merci, tu sais, pour le service rendu. Merci pour les bons moments que tu nous as fait vivre. Mais c'est le temps de passer le flambeau à d'autres.
Mais ça aide justement encore à cette attaque au sol-là. C'est le cas pour toutes les carrières. Si tu demandes à ton carrière de passer le ballon 25 fois, ben ça réduit ses chances d'être victime de revirement. Ouais. Tu contrôles le rythme de la rencontre. Et non seulement ça, avec une bonne attaque au sol, ta défense passe moins de temps sur le terrain. Donc, les joueurs en défense sont frais. Ça aide le carrière. Puis c'est ça, je disais, imagine-toi si Brady, avec une attaque au sol, il avait une attaque au sol de ce genre-là. Là, il pourrait jouer jusqu'à 55 ans.
Ouais, puis pas besoin de receveur extraordinaire pour ça. Tu as besoin de gérer le match, donner le ballon au bon moment, faire les bons choix de jeu. Puis on en parle souvent de cet équilibre-là. Puis combien un jeu au sol efficace garde la défensive adverse aux aguets, mais t'es obligé de respecter ton jeu au sol. Ça ouvre des occasions de passe, des passes-pièges aussi. Ça te permet d'ouvrir le jeu. Mais les Panthers ont compris ça, puis les Panthers ont ça, donc tant mieux pour eux. À voir maintenant s'ils sont capables de dépasser les Buccaneers pour se qualifier pour les séries éliminatoires.
Ouais, j'ai bien hâte de voir ça ce week-end. Puis du côté des Lions, bon, ça a vraiment été décevant comme performance. Eux qui avaient gagné, 6 de leurs 7 derniers matchs. Mais au moins, ils ont perdu, mais au moins, ils sont toujours dans la course pour une place en éliminatoire. Ça a été un autre bon match.
Incroyable.
Jared Goff qui joue très bien. Écoute, 355 verges, 3 passes de toucher, aucune interception. En fait, aucune interception, Jared Goff, à ses 7 derniers matchs.
Écoute, moi je suis surpris. Je ne m'attendais pas à voir les Lions dans la course en début de saison. Tu regardes comment les choses se passaient. Puis cette division-là est un peu particulière. Tu sais, les Vikings qui sauvent avec le premier rang. Mais tu sais, Packers-Lions, saison de misère, encore dans la course aux séries. C'est sûr qu'il y a un nouveau format.
Les deux.
Pour ça. Puis, tu sais, les Bears, à un moment donné, moi, je me disais, oh, est-ce que les Bears vont s'échapper avec cette haute place en séries éliminatoires? Finalement, pas du tout. On s'est un peu dégonflé.
Non, mais c'est les Bears. Ça, ouais, c'est ça.
Ouais, mais à un moment donné, tu te rappelles le début surprenant, en début de saison, je pense, après 4-5 matchs, on avait encore une fiche positive.
Ils sont mis à utiliser les jambes de Justin Fields. C'est ça qui est arrivé, soudainement. Ils ont connu du succès. Mais c'est que ça prend plus que ça. C'est une équipe qui est diminuée en termes de talent. Là, on parlait des Giants qui n'ont pas de receveur. Mon Dieu, les Bears, là, c'est encore pire. Pas de ligne à l'attaque en plus. Donc, eux, leur priorité, là, c'est simple durant la saison morte, là, c'est d'augmenter le niveau de talent autour de Justin Fields et espérer que Fields s'améliore comme passeur.
Sinon, ça parlait des Packers.
Oui, exactement. Mais j'ai hâte de voir si lui va pouvoir s'améliorer un peu comme Jalen Hurts, l'amélioration qu'il a fait en tant que passeur de l'année dernière à cette année, parce que Fields, il manque des passes. Hein, par moment, c'est pas la carrière le plus précis. Mais au moins, quand tu regardes ses performances de cette année, il y a eu une amélioration comparativement à l'année dernière. Les rivaux de section, justement, des Bears et Packers, eux, ils étaient à Miami. Ils ont gagné 26-20. Les Dolphins ont tout fait pour leur donner le match. Tua a été victime de 3 interceptions au 4e quart. Mais toutefois, le lendemain du match, on a appris que Tua a subi une commotion cérébrale probablement vers la fin de la première demi. Alors peut-être que c'est ça qui explique, tu sais, son manque de jugement, les mauvaises passes qu'il a lancées en deuxième demi. Bref, on ne sait pas si Tua va pouvoir jouer. Ouais, c'est ça, 3 interceptions au 4e quart. Donc ça serait sa 3e commotion cérébrale de la saison. Moi, je commence à craindre pour la carrière de Tua. Parce que 3 commotions cérébrales en une saison, et puis il y en a eu 2 lors de semaines consécutives, lorsqu'on a été négligent à la suite de sa première commotion cérébrale. Souviens-toi, là, il a subi une autre commotion cérébrale à Cincinnati contre les Bengals. C'était effrayant, ça faisait peur de voir ça. Donc moi, je commence à m'inquiéter pour le reste de sa carrière et même sa santé. Il a 3 commotions cérébrales lors de 6 petits laps de temps. Les commotions, s'il y a une chose qu'on sait, dès que tu es victime d'une commotion cérébrale, tu deviens plus susceptible à en subir d'autres à chaque fois que tu en subis une autre. Donc, c'est ça qui m'inquiète dans le cas de toi. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé en général justement de ce match-là? Parce que justement, c'est la blessure à toi qui a retenu ton attention.
Oui, la blessure à toi, moi aussi, je crains pour sa carrière. Comme tu dis, c'est déchirant. Puis je trouve ça difficile, le football, pour ça, parce que c'est tellement un beau sport. Puis il y a tellement de choses à apprendre. Puis la discipline, la rigueur, les détails, la place de chaque joueur. Même les joueurs les plus obscurs ont leur rôle. Mais quand tu vois des situations comme celle de toi, tu es obligé de te dire « Ah, c'est triste. » C'est triste pour le sport parce que ça jette un ombrage sur tout ce qu'il y a de beau dans ce sport-là. Puis
moi, c'est à cause de la négligence, Miguel. C'est à cause de la négligence. Tu sais, souviens-toi, la première commotion cérébrale qu'il avait subie.
On aurait dû le sortir.
Il est revenu dans le match. Ben oui. Puis tout le monde qui regardait la rencontre se disait ben non, clairement, il a une commotion cérébrale. Il n'est même pas capable de tenir debout. Qu'est-ce qui arrive la semaine suivante? En moins de 5 jours, parce qu'on avait joué un dimanche, on jouait le jeudi.
Oui, on jouait jeudi. Ouais. Je me rappelle très bien de ça, j'en ai parlé toute la semaine.
Donc, c'est pas le sport en tant que tel. Oui, c'est un sport violent. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un sport de collision. Mais raison plus pour ne pas être négligent, parce que c'est un sport où il y a plusieurs dangers.
C'est pour ça que je te dis, ça jette un ombrage. Parce que, tu sais, regarde là, qu'est-ce qu'on fait? On parle de ça, tu sais, puis on parle de la négligence, on parle de tout ce qui entoure ce cas problématique-là, sans parler du reste. Puis c'est ça que je trouve dommage. Puis, tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, un cas de négligence extrême, là, mais c'est ça, ça gâche le reste. Moi, ce que je retiens, par exemple, dans ce match-là, oui, il y a toi en fin de match, mais moi, je retiens la gourmandise des Dolphins. T'es au premier quart, puis tu fais un botté court. Pourquoi?
Pourquoi? La gourmandise. Ça, c'était stupide, carrément. Ça, c'était stupide. C'était
carrément stupide. J'aime bien comment tu dis ça.
Non, c'est ça. Parce que Dixon, le retourneur de botté des Packers, lors du botté d'envoi précédent, il avait réussi un long retour de botté. Là, je ne sais pas si on avait
peur de lui.
Mais fais un botté au sol, fais pas un botté court. Non, je l'ai dit, c'était complètement stupide. Ce jeu-là, je suis entièrement d'accord avec toi. On a donné un court terrain aux Packers. Les Dolphins ont juste, eux, à blâmer pour avoir perdu ce match-là. Les décisions de coaching, comme tu viens de mentionner, plus les revirements de toi. Écoute, Miami a donné le match à Green Bay. Tant mieux pour les Packers, mais Miami leur a donné le match. Mike McDaniel, plusieurs de ses décisions, celle-ci que tu viens de mentionner, le fait qu'il ne court pas avec le ballon. Savais-tu que les Dolphins ont gagné 100 verges au sol seulement 5 fois cette année? Et ils sont 32e et dernier dans la NFL pour le nombre de courses. T'sais, je ne sais pas pourquoi on s'obstine à passer le ballon à outrance. Je sais que tu as Hill, tu as Waddle. Mais si tu peux avoir plus d'équilibre, ça en vient à la conversation qu'on vient d'avoir. On parlait des Panthers, leur attaque au sol, le manque de jeu au sol du côté des Buccaneers. Ben, là, c'est par choix qu'on fait ça à Miami. On a Ryan Mostert qui est un bon demi à l'attaque, mais c'est par choix on passe le ballon à outrance. Ce n'est pas une recette qui permet d'avoir du succès, surtout que la défense des Dolphins, elle n'est pas si bonne que ça. Donc, c'est encore une fois. On courait plus avec le ballon, ça fait en sorte que la défense passerait moins de temps sur le terrain. Ben écoute, Miko, on est rendu au moment où... avant, oui, de révéler nos réactions excessives, je veux te poser la question rapidement. Est-ce que Zach Wilson a joué son dernier match dans l'uniforme des Jets de New York? Parce qu'il ne sera pas en uniforme la semaine prochaine à la suite de sa contre-performance de jeudi soir dernier contre les Jaguars où il s'est fait huer et où il a été horrible.
C'est fini. Merci. Bonsoir. Désolé, Zach. C'était bien le fun, là. Puis on peut faire bien des blagues avec toi puis tout ce qui se passe en dehors du terrain. Mais Mike White, c'est le carrière numéro un depuis plusieurs semaines déjà. Puis là, il va revenir au jeu la semaine prochaine. Tu sais, quand on prend ton quart numéro 4, pas le troisième, là. Quatre, ton quatrième quart qui joue à ta place.
Chris Traveler, l'ancien des Blue Bombers. Message...
Ben, c'est ça. Le cas est réglé, puis c'est assez clair. Désolé, mon ami, malheureusement. Va faire un Sam Darnold de toi-même. Va te refaire ailleurs. Va rebâtir ta confiance, puis continue à t'améliorer. Puis tu vas avoir une autre chose dans la NFL parce que tu as un choix de première ronde, puis tu as été choisi numéro 2 après Trevor Lawrence.
Je pense, moi aussi, c'est déjà fini pour lui à New York, surtout dans le marché de New York. Et si les partisans se mettent sur ton cas, les journalistes aussi, là, c'est difficile de revenir de ça. Là. C'est dans le marché new-yorkais. Il y a un précédent, là, lui, c'est sa deuxième année seulement. Mais souviens-toi, les Cardinals d'Arizona, ils ont lancé la serviette dans le cas de Josh Rosen après une saison seulement. Ils ont repêché Kyler Murray après avoir repêché Rosen dans le top 10. Sais-tu quoi? Ils avaient raison, parce que Rosen n'a jamais tenu de succès par la suite avec les autres équipes pour lesquelles il a joué. Peut-être que ça va être la même chose, malheureusement, dans le cas de Zach Wilson. Bref, on va voir. Mais moi aussi, pour moi, c'est terminé, Zach Wilson à New York, j'ai l'impression. Maintenant, oui, quelle est ta réaction excessive à la suite des matchs de la 16e semaine d'activité dans la NFL?
Ma réaction excessive, c'est que Brock Purdy va imiter Kurt Warner, va imiter également Tom Brady comme des éminents
Jeff
réservistes qui ont gagné. Oui.
Horsettler, son remonte loin dans le temps avec sa moustache.
Oui, les carrières réservistes qui ont remporté le Super Bowl. Je voulais t'en parler il y a 2 semaines, mais là, écoute, 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 ça n'a
Les
pas de
succès
sens.
n'arrêtent
Brock
pas.
Purdy. Brock Purdy, c'est le meilleur joueur. En fait, non. C'est le corps qui a le mieux joué pour les 49ers cette saison. Écoute, j'écoutais justement une intervention d'un chroniqueur américain qui disait ça. C'est celui qui a le mieux joué au poste de corps cette saison pour les 49ers. Je me suis arrêté et j'ai fait. Il exagère peut-être? Non! C'est celui qui fait le plus le travail depuis le début de la saison. Donc, il remporte le Super Bowl.
Il n'y a rien pour l'arrêter. La dernière fois que tu étais de passage au podcast, on s'emportait avec Christian McCaffrey. Il venait de se joindre aux
Oui.
Niners. Il a complété une passe de toucher. Puis là, c'est Brock Purdy. Mais les Niners, c'est quoi? C'est 8 victoires consécutives maintenant. La défense qui est tout
La
à fait dominante.
défensive.
Puis ouais, puis c'est difficile d'avoir une défense dominante. Maintenant, on a tellement changé les règlements afin d'avantager l'attaque, les carrières, le jeu aérien. On voit plus ça une défense dominante. Avant, il y avait tout le temps deux, trois équipes, tu sais, qui avaient des défenses. Il y avait les Steelers et Buccaneers au début des années 2000. Il y a eu le Legion of Boom. Seattle, je dirais, c'est la dernière défense
Oui, c'est
absolument
tout, ouais.
dominante qu'on a vue. Mais là, celle des Niners, waouh, elle accomplit tout un boulot. Écoute, moi, j'ai pas une réaction excessive. J'ai un souhait pour le nouvel an. C'est un souhait qui est
Ah ouais,
simple.
vas-y.
Ouais, je souhaite de ne pas voir, pour le bien commun, pour le bien commun de tous les amateurs de football de la NFL, je souhaite de ne pas voir les Titans du Tennessee participer aux éliminatoires. Je veux voir Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville. Ryan Tannehill est
Ouais.
blessé, sa saison est terminée, il a été opéré à une cheville. Malik Willis, il n'est pas prêt. C'est pathétique, regardez
Non.
l'attaque des Titans sans Ryan Tannehill, qu'on critiquait, mais là on se rend compte, finalement, on peut avoir une carrière bien plus pire que Ryan Tannehill, il n'est pas si pire que ça. Derrick Henry, bon,
Ouais.
il traîne des blessures, il fait qu'est-ce qu'il peut. On n'a pas de receveur. J'ai pas besoin de voir cette équipe en éliminatoire. Elle va pas connaître du succès. On a des blessés aussi à
Ouais.
d'autres positions. Choix de voir Trevor Lawrence en éliminatoire. Lawrence et les
Ah
Jaguars
ouais.
à la place des Titans. OK? Pour le bien commun,
Et
ça
tu
va être bien de
sais
voir Lawrence en éliminatoire.
combien j'aime Ryan Tannehill, hein? Donc, je serais
Ouais,
pas
bon, c'est ça.
fâché.
Mais avoue, tu sais, je sais que tu n'es pas un fan de lui, mais. Tu vois la différence entre Tannehill et Malik Willis, tu sais.
Écoute,
Tannehill
t'es obligé de
demeure
lui
en
donner.
carrière
Puis,
professionnelle.
ouais, puis pour être honnête, Didier, cette saison, je pense que j'ai pas vu un match en direct des Titans. J'ai regardé des extraits, j'ai regardé des résumés, mais tu sais, elle m'intéresse pas cette équipe-là. Tu sais, fait que je suis d'accord avec toi là-dessus.
Ouais, OK, on y va. Donc, on se croise les doigts que les Jaguars vont être en mesure. Ben, ils sont déjà là au premier rang parce qu'ils détiennent le bris d'égalité. Ils ont la même fiche que les Titans. Mais en tout cas, j'espère avoir le jeune Trevor Lawrence en éliminatoire plutôt que les Titans et Derrick Henry qui est magané, épuisé. Bon, ben écoute, on a fait le tour, Mika. Hey, je te remercie de ton passage au podcast.
Hey,
Écoute, je vais te
merci,
souhaiter
Didier.
une bonne année 2023. Je te souhaite la santé, tout simplement. Je sais qu'un gars comme toi, avec ton éthique de travail, tu vas t'occuper du reste. Donc, santé à toi et ta famille pour 2023.
Hey, merci, Didier. Même chose pour toi, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Fait que bonne fin de saison, puis on va sûrement se reparler en série.
Oui, définitivement. Oh, je vais te texter pour t'inviter durant les éliminatoires pour jaser de qu'est-ce qui se passe. Ça marche. Attention à toi. Bonne
Good.
fin de journée.
Salut.
Alors, on va se tourner maintenant vers le volet fantasy football avec Marc-André Chaloux. Marc-André, écoute, ce sont toujours des choses sérieuses lorsqu'on se parle, mais là, c'est la semaine des finales, des matchs de championnat au niveau du fantasy football. Plus que jamais, les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent mise sur toi afin de leur permettre de mettre la main sur la cagnotte ou peu importe quel est le prix de leur ligue de fantasy football. Je ne veux pas t'ajouter de la pression sur tes épaules, mais tu as de la pression afin d'aider le peuple québécois en fin de saison de fantasy football. Alors vas-y, quelles sont tes recommandations? On t'écoute.
J'ai déjà chaud. J'ai tellement de pression. J'ai chaud d'idées. Cette semaine, on va faire des start sit en anglais. Donc, on les insère dans notre formation, on les assoit sur votre banc, puis qu'on enregistre le mercredi. Et je commence la position de carrière. Qui qu'on insère cette semaine, Didier? Vous en avez parlé un petit peu. Jared Goff. De Chicago, ben, Jared Goff, vous en avez parlé tout à l'heure, il a au moins deux passes de toucher dans quatre de ses cinq derniers matchs. Tu as volé ma stat en disant qu'il a sept matchs de suite sans interception. Jared Goff, c'est quand même assez impressionnant. On pense que Jared Goff, on a vraiment cette mentalité-là, comme quoi que c'est un quart vraiment erratique par moment, mais les choses se placent dans son cas dans l'attaque des Lions, ça c'est intéressant. Et pour moi, les Lions, c'est un must-win, hein? C'est un match qu'ils se doivent de gagner, c'est à domicile, il n'y aura pas de fort vent, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas rien. Donc, les conditions sont favorables pour que Jared Goff connaisse un grand match. Et les Lions affrontent les Bears de Chicago qui ont accordé le neuvième plus haut total de points au quart adverse cette saison. Et dernièrement, les Bears ont accordé, oui, vous allez me dire, 34 points fantasy à Jalen Hurts. Vous allez me dire, ça va de soi, c'est Jalen Hurts. Mais aussi 25 points fantasy à Mike White et 18 points fantasy à Marcus Mariota si on remonte dans un passé pas si lointain. Donc, Jared Goff, pour moi, à la recherche de carrière, c'est un joueur vraiment à insérer dans votre formation pour votre championnat cette semaine.
Ouais, il joue très bien. Il joue vraiment bien, là, Jared Goff. Il faut lui donner crédit. Maintenant, quelle est la carrière que tu suggères de clouer au banc cette semaine?
On a embarqué dans le manège, on a fait quelques tours avec Geno Smith, mais c'est maintenant le moment de passer, d'aller ailleurs dans le parc d'attractions, de ne plus refaire ce manège-là. Ce ne sera pas une bonne semaine pour les propriétaires de Geno Smith, selon moi, parce que les Seahawks affrontent les Jets de New York qui excellent. C'est une excellente défense, celle des Jets de New York, qui ont accordé le 11e plus bas total de points au quart adverse cette saison. Et depuis la semaine numéro 9, seulement qu'un quart a franchi 19 points fantasy contre la défense des Jets, ça a été Josh Allen deux fois. Donc, ça vous donne une idée à quel point la défense des Jets est dominante, surtout contre la passe. Et on se rend compte, Didier, que depuis quelques semaines, bon, avec la blessure de Tyler Lockett, on voit que ce n'est pas la même dynamique dans l'attaque des Seahawks depuis le départ de Tyler Lockett. Donc, j'ai vraiment des réserves envers Geno Smith et on manque vraiment, Tyler Lockett, c'est un gros morceau et ça manque à Geno Smith, ça manque pour qu'il connaisse du succès, pour qu'il soit efficace. Lors des deux dernières semaines, Geno Smith a quand même terminé au 15e et 18e rang fantasy. Vous allez me dire, c'est pas horrible, mais c'est quand même décevant, spécialement la semaine dernière contre la défense des Chiefs. On pouvait s'attendre, malgré l'absence de Tyler Lockett, c'est un meilleur peut-être rendement pour Geno Smith. C'est pas horrible, mais ça ne vous fera pas gagner votre championnat, un carrière qui va terminer au 15e ou au 18e rang. Donc, pour moi, si vous avez une autre option, faites jouer l'autre option. Geno Smith, pour moi, est à clouer sur votre banc cette semaine.
Ouais, c'est malheureux hein, pour Smith et les Seahawks, leur carrosse qui s'est transformé en citrouille lors des dernières semaines après une excellente première moitié de saison. Maintenant, la position de mis à l'attaque, est-ce qu'il y a un porteur de ballon qui ressort du lot pour toi cette semaine?
Retenez bien votre souffle, je ne pensais jamais dire ça, mais Cam Akers, pour moi, est intéressant cette semaine. Cam Akers, oui,
Il joue bien récemment.
c'est l'enfer. Ce qu'on a remarqué, c'est vraiment sans receveur de passe, on s'entend que les Rams ont plusieurs absents à la position de receveur de passe. En fait, le seul vraiment dernier des Mohicans, c'est Tyler Higbee. On a vu ce que ça a donné lors du dernier match, deux touchés. Ça aussi, c'est. Et en fait, ce match-là, petite parenthèse, Didier, Rams-Broncos, en termes d'imprévisibilité, le résultat est imprévisible. Je n'ai pas compris pourquoi Cam Akers a obtenu trois touchés contre l'excellente défense des Broncos. Ça, c'est.
Ils ont lancé la serviette. Ils ne voulaient plus jouer pour détruire la quête. La saison a été longue et pénible pour eux. Ils sont au bout, là. Ils sont plus capables.
C'est sûrement ça, mais bref, en l'absence de plusieurs receveurs de passe du côté des Rams, Cam Akers, on court à outrance et Cam Akers est le principal, disons, atout dans le jeu de course des Rams. Il a obtenu 65% des courses de l'équipe lors des quatre derniers matchs. Et au cours des quatre dernières semaines, bon, ça l'a mené à avoir Cam Akers deux fois dans le top 8 à la position de porteur de ballon au niveau fantasy, dont il a été le meilleur porteur de ballon fantasy la semaine dernière grâce à ses 3 touchés contre les Broncos. Et cette semaine, ben, les Rams affrontent les Chargers de San Diego, les Chargers de Los Angeles, qui sont 28e contre la course dans l'NFL cette saison. Ils ont encore en moyenne, ils accordent en moyenne plus de 140 verges au sol. Donc, pour moi, Cam Akers, je me pince en vous disant ça. Vivement 2023, je ne peux pas croire que je vais vous le dire ça. Retenez bien votre souffle, mais je pense que Cam Akers peut être un excellent pivot. Je ne serais pas gêné de le faire jouer dans ma position flex Cam Akers cette semaine.
Ouais, tu n'as pas à t'en faire là, avec ton lapsus d'avoir dit Chargers de San Diego. Moi, j'ai commencé la diffusion de notre match de lundi soir en disant les Colts de Los Angeles. Alors, vous avez les Chargers de Los Angeles. Ouais, puis là, j'ai arrêté une seconde en nombre. Puis je me suis dit, est-ce que je viens de dire les Colts de Los Angeles? Je m'en suis aperçu. Là, je me suis repris. Mais au moins, toi, les Chargers ont déjà joué à San Diego, là. Ouais. c'est moins pire. Moi, les Colts de Los Angeles, c'est comme, c'est quoi je viens de dire, là?
C'est tu cherchais Baltimore, probablement.
Ouais, peut-être. Ou c'était peut-être à cause que j'étais fatigué après le long week-end de football qu'on a eu. C'est peut-être ça, un peu. Le café était que les plus suffisant pour me tenir à l'aise.
Je pense que les Colts s'ennuient de Johnny Unitas cette année.
Ouais, ils auraient pu l'utiliser au poste de quart. Hein. Je pense c'est juste ça qu'il leur reste à faire là, après Nick Rose. Maintenant, quel est le demi à l'attaque que tu suggères de clou au banc lors de la semaine de championnat?
Devin Singletary a connu un fort match contre les Bears. Il a obtenu 106 verges au sol, un touché. Mais cette semaine, je pense qu'il est à clouer sur votre banc. Pourquoi? Parce que la défense des Bengals excelle contre le jeu de course. Elle a accordé moins de 75 verges au sol en moyenne lors des 3 dernières semaines. Et elle a accordé seulement en moyenne 9 points fantasy aux porteurs de ballon adverses. Vous allez me dire, 9 points fantasy, c'est quand même pas si pire dans votre pivot, dans votre flex, comme porteur de ballon numéro 3. Oui, mais le problème, c'est que pour Devin Singletary, il y a la présence de James Cook qui lui subtilise des courses, et il y a aussi Josh Allen qui est vraiment efficace dans le jeu au sol également. Donc, pour moi, pour ces raisons-là, je pense que Devin Singletary est à clouer sur votre banc cette semaine.
Maintenant, on va se tourner du côté de la position de receveur de passe. Il y a Devante Smith et des Eagles qui connaissent une bonne séquence et tu crois qu'il faut absolument l'insérer au sein de la formation partante cette semaine.
C'est assez incroyable à quel point la magnifique saison de Devante Smith passe vraiment sous le radar en ce moment. Didier, il est le receveur numéro 10 au total pour la saison en format PPR et il est le receveur numéro 11 en format standard de Devante Smith. Il a obtenu au moins 100 verges dans 3 de ses 4 derniers matchs. Il a inscrit 4 touchés à ses 4 derniers matchs. Il a obtenu au moins 17 points fantasy dans 4 matchs de suite en format PPR. Pour moi, Devante Smith s'est rendu un automatique. Il est un must-start. Il est à insérer dans votre formation. Et ça, on s'est rendu compte de ça. On l'a vu la semaine dernière. Et ça, c'est peu importe le cas, que ce soit Jalen Hurts, que ce soit Gardner Minshew. Et vraiment, les Eagles affrontent les Saints cette semaine. Et la défense des Saints, ben, comme on dit, est plus ce qu'elle a déjà été. Donc, pour moi, Devante Smith, je n'ai pas peur de la défense des Saints cette semaine. Il est à insérer dans votre formation et pour cette semaine, et on va se le dire pour la suite des choses également.
Et le receveur, est-ce qu'il y en a un là, qui, selon toi, on doit garder sur le banc?
Terry McLaurin des Commanders de Washington. Pourquoi? Parce que Carson Wentz vient de retrouver son poste de partant. Oui. Du côté des Commanders. Donc, et la semaine dernière, lorsque Carson Wentz est embarqué dans la mêlée, il a ciblé seulement qu'une fois en 16 passes Terry McLaurin. Puis ça, c'est un problème parce qu'avec Carson Wentz en début de saison, Didier, Terry McLaurin a obtenu seulement 21 catches lors des 6 premières semaines au total. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. C'est un peu plus de 3 catches par match. Et avec Tyler Heinicke, il a été ciblé 29% du temps dans l'attaque des Commanders. Ça, c'était parmi les meneurs dans la NFL. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avec Carson Wentz, ben, la valeur de Terry McLaurin est grandement diminuée. Et les Commanders affrontent les Browns cette semaine de Cleveland, qui sont 8e contre les receveurs adverses au niveau fantasy. Donc, pour moi, Terry McLaurin cette semaine, à vos risques et périls, mais c'est un choix risqué.
Maintenant, la position d'ailier rapproché, quelles sont tes recommandations?
Il est en feu, George Kittle, hein, et je vous imagine mal les propriétaires de George Kittle en finale de le mettre sur votre banc de toute façon. Mais juste pour vous dire que lors des deux derniers matchs, en l'absence de Deebo Samuel, il a été ciblé 26% du temps dans l'attaque des 49ers. Ça, c'est le même ratio que Brandon Ayuk aussi. Donc ça, c'est intéressant. Donc Ayuk Kittle, c'est en ce moment l'attaque aérienne des 49ers de San Francisco. Il a été ciblé 11 fois pour 213 verges et 4 touchés en deux matchs. Il est vraiment en feu. C'est le bon vintage Kittle. Il est de retour. Il a terminé au premier et troisième rang à la position de les rapprocher. Et les 49ers affrontent cette semaine les Raiders de Las Vegas. C'est un affrontement favorable. C'est sûr, vous n'allez pas mettre sur votre banc George Kittle, mais vraiment, je voulais mettre en lumière le fait qu'il connaît vraiment des moments exceptionnels. Il est à insérer dans votre formation.
Ouais, Kittle est tout comme Cam Akers. Il a été repêché tôt, on fondait beaucoup d'espoir sur lui. Là, comme Akers, ben là, à la fin de la saison, lors des éliminatoires, ben, il récompense son propriétaire. Je pense que les gens ont sûrement gardé Kittle au sein de leur formation, mais il y en a plusieurs qui ont peut-être lancé la serviette dans le cas de Cam Akers, qui l'ont fort probablement libéré, mais à un certain moment donné, il n'était même plus en uniforme pour les Rams. Mais là, ils essaient de se faire pardonner.
Exact.
Lors des éliminatoires du Fantasy Football. Mais tant qu'elle est, il est rapproché que, selon toi, il faut le garder au banc, là. Faut pas le faire jouer.
Ça, c'est une prédiction un peu plus risquée. Je vais vous parler de TJ Hawkinson. Vous allez me dire, il a connu un match
Oh!
simplement
Ben oui!
époustouflant contre les Giants la semaine dernière. 35,9 points fantasy, il a inscrit deux touchés. Mais là, les Vikings s'en vont à Lambeau pour affronter les Packers. Et la dernière fois que Kirk Cousins est allé jouer un match à Lambeau, il a obtenu 160 verges seulement par la passe et une passe de toucher. Et la défense des Packers accorde en moyenne 192 verges par la passe cette année. Donc ça, c'est un excellent ratio dans la NFL. Et la défense des Packers est vraiment bonne contre les ailiers rapprochés adverses. En fait, elle a permis seulement 50 verges à un ailier rapproché seulement trois fois cette année. Donc, j'additionne un peu toutes ces statistiques-là, les insuccès de Kirk Cousins par la passe au Lambeau Field, et on s'entend, hein, Lambeau Field va faire frette probablement encore une fois en fin de semaine, jumelé à l'efficacité de la défense des Packers contre la passe et spécifiquement contre les ailiers rapprochés adverses. Bon, j'imagine que ceux et celles qui ont Hawkinson ne pensent, ont peut-être pas d'autres options dans leur alignement, dans leur formation fantasy, mais si vous en avez une, je vous invite à y penser peut-être deux fois avant d'insérer TJ Hawkinson.
D'accord. Maintenant, ben, pour cette semaine, tu vas des recommandations pour les défenses, la défense à faire jouer et à ne pas jouer.
Je voulais faire le tour au complet de l'information, donc je voulais vous soumettre une défense à insérer dans votre formation et je vais vous parler de celle des Chiefs de Kansas City. Pourquoi? Ben, vous en avez parlé. Premièrement, la défense des Chiefs de Kansas City, Didier, joue beaucoup mieux depuis quelques matchs. Et bon, les Chiefs affrontent les Broncos qui, on le sait, auront un entraîneur-chef par intérim. Bref, comme on dit en bon québécois, la mare des poignets du côté des Broncos. Donc ça, c'est une excellente
Exact.
occasion pour la défense des Chiefs. Alors profitez-en, il risque d'avoir des revirements. Donc la défense des Chiefs, pour moi, et si vous êtes à la recherche d'une défense à court terme, un streamer, la défense des Chiefs devient intéressante. Et dernier match de la saison, je vous conseille d'asseoir non seulement la défense des Bills, mais aussi la défense des Bengals. Pourquoi? Parce que ce sera le dernier match de la saison, le dernier match du lundi soir, ce sera deux vedettes troc, Joe Burrow, Josh Allen. Pour moi, ce sera un match offensif, deux machines offensives. Ce sera un match important pour les deux équipes. Et pour moi, je pense que ce sera un match à haut pointage. Donc, qui dit un match à haut pointage dit asseoir les deux défenses qui ont été vraiment excellentes tout au long de la saison. Mais je pense qu'à cause qu'il y aura des explosions, des feux d'artifice potentiels dans ce match-là, je vous invite à peut-être penser plutôt à asseoir votre défense des Bills et votre défense des Bengals.
Oui, en tout cas, j'ai hâte de voir ce match-là, là. Bills contre Bengals. Ça va être le dernier match du lundi soir de la saison, alors on va terminer ça en force.
Ça sera écœurant. Écoute, on ne pouvait pas demander mieux. Je pense que, honnêtement, ça va être époustouflant. En fait, on a des attentes sur ce match-là. J'espère qu'on ne sera pas déçus. C'est un peu ça le problème.
Oui.
Dans la vie, souvent, quand on a trop d'attentes, mais écoute, Joe Burrow, en fait, les Bengals, c'est probablement l'équipe ou l'une des équipes qui joue le mieux en ce moment. Les Bills, la grosse attaque. Joe Burrow est, en tout cas, j'ai bien hâte de voir, sérieusement, ça va être Quelle façon de conclure l'année des matchs du lundi soir avec un affrontement vraiment, ça va être haut en couleur selon moi.
J'espère que la rencontre va répondre aux attentes.
Exact.
Ben Marc-André, je te remercie. On a fait le tour, je te remercie, de tes conseils à Fantasy. On va se reparler la semaine prochaine. On va continuer d'y aller, mais peut-être avec le Fantasy quotidien, le Daily Fantasy. Ouais. Bref, on aura l'occasion d'en discuter la semaine prochaine. Pour les gens qui ont regardé le podcast et qui le téléchargent à toutes les semaines, comme à l'habitude, je vous remercie de le faire. Mais surtout, je vous souhaite de passer une bonne année 2023. Je vous souhaite à tous et à toutes la santé, tout d'abord, parce que ça sonne tellement cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. Si on n'a pas la santé, ben on n'a rien. Puis après ça, ben je me fie à vous pour vous occuper du reste. Puis à toi aussi, Marc-André, tu as été papa au cours de l'année 2022. C'est une année que tu ne vas pas oublier. Puis je te souhaite d'avoir une aussi belle année en 2023.
Pareillement, Didier, hein? Écoute, joyeux Noël, ben, bonne année à toi. Si on va se revoir, nous deux, mais à tous les auditeurs qui nous écoutent également, on ne mesure pas assez la portée de ce podcast-là. Puis il y a des gens qui commencent à me parler de mes segments fantasy, me parler du podcast, à quel point, Didier, c'est intéressant, c'est le fun comme podcast. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on est écouté par vraiment beaucoup, beaucoup de gens, et ça fait chaud au cœur. On se rend pas compte à quel point, ou en fait, ça nous fait dire qu'on fait pas ça pour rien, qu'on fait ça pour des gens. Puis si les gens aiment ce qu'on fait, ben c'est l'important. Hein. Si on faisait ce podcast juste pour nous deux, ça serait beaucoup moins intéressant.
Oui, ben justement, à tous ces gens-là, ben, on les remercie de nous écouter, de télécharger le podcast à toutes les semaines. Alors, sur ce, ben, on va reprendre les enregistrements à partir de la journée de mardi, la semaine prochaine. Cette semaine, en raison de l'horaire des fêtes, on a enregistré le podcast mercredi, il est mis en ligne mercredi, mais la semaine prochaine, on va recommencer les mardis. Allez, portez-vous bien, on se reparle la semaine prochaine.